Après-midi du 24 novembre, nous continuons notre retraite sur ce thème. Le matin vient et la nuit aussi, que nous avons tiré du chapitre 21 du prophète Ésaïe, le verset 12. Et pour commencer, nous allons nous recommander à la grâce de Dieu, puis nous entendrons un bref rapport des actes. Dieu notre Père, nous sommes sous ton regard, et c'est un regard d'amour, un regard de tendresse, un regard de bonté. Nous pouvons respirer, nous sommes sous ton regard, et nous nous sentons aussi protégés. Et nous croyons que cet après-midi, tu veux nous faire du bien parce que tu vas nous occuper du Fils qui a fait tes délices de toute éternité, de Jésus, ton bien-aimé, que tu voudrais que nous connaissions, non pas seulement comme un sauveur ou un seigneur, un maître, mais comme le bien-aimé de notre vie, capable de remplir tout ce vide de nos cœurs. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui et que nous puissions découvrir l'objet de ton amour dans cette parole que tu nous as donnée pour notre bonheur et notre joie, mais qui pourrait être aussi notre condamnation, car ce n'est pas autre chose que cette parole qui nous jugera au dernier jour. Donne-nous d'être attentifs et donne-nous encore ta bénédiction en Jésus-Christ. Amen. Alors je suis très reconnaissant au Seigneur qu'il nous ait conduit à méditer sa parole, à réfléchir sur cette parole, à interroger, hein, car c'est bien ce que nous avons lu dans cet oracle sur Dumas. On me crie de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Alors, si vous voulez interroger, alors c'est où vous êtes livré à cette interrogation, interroger, vous avez interrogé l'Écriture, la seule source de vérité. Et puis, quand même, ça nous amène toujours à quelque chose de positif. Quand on s'interroge, bien, on voit à quel point nous avons besoin d'une véritable conversion et de revenir à ce que Jean appelle ce qui était dès le commencement. Et de quoi parle-t-il dans cette première épître quand il dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, c'est quoi? C'est quelqu'un, n'est-ce pas? Concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée. Et nous l'avons vue. Qu'est-ce que c'est que cette vie? C'est la personne même de Jésus. Cette vie qui était auprès du Père et qui était avec Dieu, qui était la parole, qui était avec Dieu, qui était Dieu et qui est devenue chair. Et nous vîmes sa gloire, une gloire comme celle d'un Fils unique venu de la part du Père. Et c'est donc à lui que nous devons revenir. Et dès que vous revenez au Seigneur, tout peut changer. Regardez à Jésus dans vos circonstances. Au lieu de regarder aux autres et de maugréer sur votre sort parce que vous trouvez que vous êtes dans un état pire que les autres, regardez à Jésus et vous aurez la délivrance. Il est vraiment la réponse. Fixez vos yeux sur lui. Ayez recours à lui, non pas dans les grands moments de votre vie, mais dans le quotidien, dans le détail, dans tout ce qui peut vous empoisonner. Regardez à Jésus. Il veut bien entrer dans toutes ces circonstances pour vous donner sa force et sa paix. Alors, pour revenir à ces questions que vous avez très bien traitées, quel aveu trouve-t-on dans la demande faite à la sentinelle? Eh bien, vous l'avez discerné, c'est que ces gens de la montagne de Séir s'aperçoivent bien qu'ils sont dans la nuit, dans les ténèbres. Ils avouent que c'est la nuit. Et ils demandent au prophète, qu'en est-il de cette nuit? Mais nous avons vu que c'est au fond une demande qui vient de l'incrédulité. Ils devraient connaître, ils devraient savoir. Mais on n'y croit pas. Et c'est pourquoi nous avons rapproché cette demande de ces dires que nous trouvons dans l'épître de Pierre, dans la deuxième épître, au sujet de la venue du Seigneur qui doit être la venue du matin, la venue de la délivrance. Mais enfin, le monde même incrédule reconnaît qu'il est dans les ténèbres. Et je suis heureux que quelqu'un ait lu et cité le chapitre 12 de l'évangile de Jean, qui clarifie bien toute cette question. Au verset 35e, du chapitre 12 de l'évangile de Jean, Jésus dit aux foules, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Il y a eu donc un jour dans ce monde de ténèbres où la lumière est venue. La lumière est venue, mais le monde, comme il l'est dit dans plusieurs portions d'Écriture, a préféré les ténèbres à la lumière. Pour quelle raison? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. On n'a pas voulu de la lumière. Et cette lumière est pourtant restée là, et encore pour un peu de temps, leur dit Jésus, parce qu'il est à la fin de son ministère, c'est dans sa dernière semaine, qu'il dit cela, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Et pour vous montrer l'unité de l'Écriture, je vais maintenant dans le livre de Jérémie, un verset que je vous ai déjà cité, au chapitre 13, le verset deuxième, déjà, je dirais, verset 15, écoutez, ne soyez point orgueilleux, ne soyez point orgueilleux, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle, rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres. Donc, il y a des ténèbres qui vont encore venir sur la terre. Avant que vos pieds se heurtent contre les montagnes de la nuit, ou les montagnes du crépuscule, vous attendrez la lumière et il la changera en ombre de la mort. Il la réduira en obscurité profonde. Et alors, l'attitude de Dieu à l'égard de cette incrédulité, regardez sa bonté. Si vous n'écoutez pas, qu'est-ce qu'il fera? Je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Vous voyez bien que c'est l'attitude qu'a eue Jésus. Quand il a vu Jérusalem, qui ne connaissait pas le temps de sa visitation, le temps où la lumière était en son sein par Jésus lui-même, il a pleuré sur Jérusalem et il a dit que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous n'avez pas voulu. C'est pas vous n'avez pas pu, l'occasion a été donnée pour qu'ils se convertissent à Jésus et qu'ils vivent. Et je voudrais vous demander, est-ce que quand vous considérez la vie de Jésus, est-ce qu'elle vous fait envie? Quelle est la vie qui vous fait vraiment envie? La vie vraiment d'un homme. Quel est celui à qui vous voudriez ressembler? Je ne parle pas des souffrances de Jésus, mais de sa vie morale. De celui qui disait, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis macho. C'est votre traduction. Je suis doux et humble de cœur. C'est vraiment magnifique. Je suis doux et humble de cœur. Et comme je dis souvent, ne détruisons jamais le vrai caractère du Christ en chacun de nous. Veillons à ne pas nous endurcir. Ne devenons pas durs. Jésus était doux et humble. Gardons-nous de l'orgueil. Car vous savez que c'est le piège de qui? Du diable. L'orgueil, c'est le piège du diable. Puis c'est le piège aussi des serviteurs de Dieu. L'OAS, l'orgueil, l'argent et le sexe. Ces trois pièges, ou comme on l'a dit souvent, ces trois pures de bananes, sur lesquels on risque de glisser, parce que la chair reste la chair. Eh bien, verset 17, si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. Et c'est Jérémie qui disait cela à Jérusalem quand le temple de Salomon existait encore. Il était vraiment le messager du Seigneur, il leur disait, Dieu ne prend pas plaisir à la mort du pécheur, comme l'a dit aussi Ézéchiel. Tous les prophètes ont parlé de cette manière-là. Mais si nous ne voulons pas, alors, évidemment, eh bien, c'est le jugement qui va fondre, comme Jésus devait annoncer la ruine de Jérusalem, et qui aurait lieu en l'an 70, il avait déjà la vision des armées romaines conduites par Titus et qui allaient détruire la ville et emmener de nouveau le peuple en captivité. Verset 36, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. C'est cela, nous ne sommes pas de la nuit, mais nous sommes du jour. Nous sommes du jour. Jésus dit ces choses, puis s'en alla et se cacha loin d'eux. Et le verset 37, parce que je voudrais que vous puissiez trouver vous-même la réponse de mieux connaître Esaïe. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Esaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? C'est quel chapitre? C'est le chapitre 53, la deuxième partie du livre d'Ésaïe. Ou bien, est-ce que vous direz que c'est le second Ésaïe, un autre, qui n'est pas Ésaïe? Il est dit clairement ici que c'est d'Ésaïe qu'il est question, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Donc alors, Jean se serait trompé. Or, on nous dit qu'il n'avait pas nos connaissances, évidemment. Lui qui mettait sa tête sur le sein du Seigneur. Alors là, c'est le chapitre 53. Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore. Un autre Ésaïe? Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Et troisièmement, verset 41, Esaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et parla de qui? De lui. Chapitre 6. Hein? Alors, voilà qui clôt pour nous, parce que si vous touchez aux Écritures, c'est-à-dire à la loi, les psaumes et les prophètes, vous touchez à qui? À la personne de Jésus lui-même. Et vous enlevez aussi toute autorité au Nouveau Testament. Alors, on détruit l'Ancien Testament, mais on détruit aussi le Nouveau Testament. On détruit la personne même du Christ, qui disait lui-même dans le chapitre 5 de Jean, au sujet du Pentateuque, par exemple, « Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car lui a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles ?» Alors, mettez en doute tout le Pentateuque, avec toute l'histoire des sources et tout ce que vous voulez, vous pouvez faire cela, si cela vous plaît. Mais je préfère en rester à cet enseignement que nous a donné le livre. Parce que tous les courants théologiques, ils durent une vingtaine d'années, puis il y en a un nouveau, etc. Et il faut toujours changer. Et il faut toujours être à la mode du courant. Nous voulons en rester à ce que les apôtres croyaient, comme Jude nous le dit après que nous ayons cité Jean, qui insiste pour que nous gardions ce qui était dès le commencement, c'est-à-dire la personne de Jésus, dans l'épître de Jude, bien-aimé. Alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. La foi, c'est l'ensemble des vérités du christianisme. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la gloire de notre Dieu en dérèglement et qui ruinent notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. C'est à ce seul Maître et Seigneur Jésus-Christ que nous voulons demeurer fidèles. Maintenant, nous passons à la deuxième question. Nous sommes convaincus que le prophète Ésaïe est celui qui a reçu ces merveilleuses révélations que nous trouvons dans ces 66 chapitres. Ces révélations, dont plusieurs ont déjà eu leur accomplissement 700 ans après qu'il ait eu ces révélations, eh bien, nous voyons que ces choses ont eu leur accomplissement, en particulier ce 53 d'Ésaïe, et qui est composé au passé prophétique, comme on l'appelle. Ésaïe a une vision si claire des événements futurs qu'il en parle comme s'ils étaient déjà passés. Il nous dépeint l'œuvre de la croix, l'œuvre du Seigneur, comme si c'était un fait passé, le passé prophétique. Il a une vision absolument claire de toutes ces choses. Il peut nous dire qu'il a été, on peut voir son arrestation comme un agneau qui est mené à la boucherie, qui n'a pas ouvert sa bouche. On le condamnait à être enseveli à la voirie, et pourtant il a été avec le riche dans sa mort, le tombeau de Joseph d'Arimathée, et nous trouvons une précision extraordinaire dans tous ces faits qui nous amènent à voir vraiment la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Et il nous en a parlé ainsi. Et quand vous parlez de ces choses en y croyant, eh bien, on voit aussi quelque chose de la gloire de Dieu qui resplendit sur vous. Vous n'êtes pas avec ce visage sombre de l'incrédule, avec ce visage tourmenté de celui qui en sait tellement qu'il ne croit plus en rien, parce qu'il est devenu agnostique. Nous voulons rester comme un petit enfant qui bénit son Dieu de lui avoir donné révélation. Et nous voulons toujours nous souvenir que l'objet de la prophétie, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Alors, à la lumière de vos connaissances bibliques que représente pour vous la nuit, vous avez très bien traité cela. La nuit, c'est au fond le temps qui s'écoule depuis le coucher du soleil jusqu'à son lever. Et ce temps pourrait être aussi, s'il n'y avait pas eu la chute, un temps de bénédiction. Un temps où l'on peut chanter aussi les cantiques dans la nuit, les parler des cantiques dans la nuit. Et qui est-ce qui, à minuit, chantait des cantiques dans la nuit? Paul et Silas, au lieu de gémir parce qu'ils avaient été battus, ils chantaient des cantiques, et là, les prisonniers les écoutaient dans cette première ville d'Europe qui a été évangélisée par l'apôtre Paul, Philippe de Macédoine. Oui, mais depuis la chute, eh bien, évidemment, Satan est devenu, s'est manifesté comme le maître, lui le prince des ténèbres, qui était pourtant avant, qu'est-ce qu'il était? Prince des ténèbres? Non. Porteur de lumière. Lucifer, porteur de lumière, le premier des anges, le chef des anges, mais qui, par son orgueil, a voulu supplanter Dieu et a été déchu. Et il n'a pas pu admettre que Dieu, prédestiné, prédestine un être à devenir semblable à qui ? À son fils. Parce que Dieu révèle qu'il va créer un être qui sera semblable à son fils, donc qui sera au-dessus des anges, donc au-dessus de Lucifer. Et alors, il y a une révolte dans son cœur. Le mal n'avait pas d'existence propre. Pour qu'il y ait vraiment le mal, il fallait une opposition au bien. Et selon Jésus, eh bien, l'origine du mal s'est trouvée dans le cœur de cet être qui s'est opposé, qui a osé s'opposer au plan de Dieu. Il dit dans le chapitre 8 de l'évangile de Jean, il désigne Satan comme étant le père du mensonge, le meurtrier dès le commencement, et qu'il n'y a pas de vérité en lui. Voilà où Jésus voyait l'origine du mal dans le cœur de cet être, qui s'est donc opposé au dessein de Dieu qui prédestinait cet être, enfin, qu'il avait préconnu. Nous avons été préconnus dès avant la fondation du monde, c'est-à-dire vous avez existé dans la pensée de Dieu avant la création du monde. Ça ne vous dit rien, ça ? Ce n'est pas si merveilleux ? Mais comment est-ce qu'on est si peu adorateur quand on pense que vous avez eu individuellement une place dans le cœur de Dieu, dans sa pensée. Il ne vous a pas créé pour le malheur, il ne vous a pas créé pour les humiliations du sépulcre, il ne vous a pas créé pour la mort, il vous a créé pour le bonheur, prédestiné à être semblable à son fils. Mais un être a voulu s'opposer à cette création. Et alors il a été déchu, mais le Seigneur l'a laissé pourtant subsister. Et alors, vous voyez que ne pouvant pas combattre contre Dieu, il a guetté le moment pour combattre contre la créature de Dieu. Et amener l'homme à se séparer de Dieu, à se détourner du Seigneur qu'il avait créé pour le bonheur et à le suivre dans sa révolte. Au fond, Satan a promis à l'homme l'indépendance. S'il se révoltait contre Dieu, eh bien, il serait lui-même Dieu. C'est toujours la même chose. Ce qu'il a voulu être, lui, eh bien, il voudrait que l'homme suivent le même chemin, et c'est ainsi que l'indépendance, qui ne pouvait pas être l'apanage d'aucune créature, eh bien, l'homme, en voulant devenir indépendant, qu'est-ce qu'il a perdu ? Sa liberté, n'est-ce pas ? Dieu avait créé l'homme libre, mais il n'était pas indépendant. Il n'avait qu'un commandement à suivre, rester dans la dépendance de Dieu. Et alors, il avait tout par Dieu, la lumière, la vie, c'était quelque chose de merveilleux. Mais, se séparant de Dieu, bien, c'est ça la chute, il est retombé sur lui-même, et il n'est plus que chair. C'est ce que vous voyez dans le chapitre 6 de la Genèse, l'homme n'est plus que chair. Et alors, qui est-ce qui a pris la place de l'homme qui aurait dû être le roi de la création, c'est Satan, qui est devenu le prince de ce monde et qui règne sur ce monde. Tout cela nous est montré dans l'Écriture quand on s'en nourrit. Et alors, Dieu avait évidemment prévu qu'il pouvait y avoir, s'il créait réellement un être libre, qu'il ne soit pas contraint de l'adorer, mais qu'il adore librement, créer un être libre comportait un risque. C'est que l'homme pouvait dire non à Dieu. Hein. Eh bien, si l'homme disait non, si l'homme faisait le mauvais choix, qu'est-ce qui arriverait? Le dessein de Dieu anéanti? Non. Dieu avait prévu un plan de restauration, le plan de la rédemption. Au cas où l'homme disait non, l'agneau de Dieu, préconnu dès avant la fondation du monde, serait manifesté au temps propre. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre nous dit que nous n'avons pas été rachetés de notre vaine manière de vivre par de l'argent, par de l'or ou par des choses corruptibles, mais par le sang précieux du Christ, n'est-ce pas ? Préconnu dès avant la fondation du monde. Au cas où l'homme faisait le mauvais choix, Dieu ne serait pas pris au dépourvu, mais il enverrait un libérateur et qui serait le vainqueur de Satan. Et quand il a dû punir l'homme en chute, il a tout de suite mis dans le cœur d'Adam et d'Ève une promesse de miséricorde, Genèse 3, 15, que la postérité de la femme, la semence de la femme, écraserait la tête du serpent et que lui la blesserait au talon. Tout cela est annoncé dans les Écritures. Mais il ne l'a pas manifesté immédiatement parce qu'il fallait que l'homme fasse l'expérience que loin de Dieu, il ne pouvait pas s'en sortir. Or, l'homme en chute, pensait qu'il pourrait s'en sortir. Il avait des prétentions. Et même quand il a reçu la loi de Dieu, puisqu'il voulait savoir ce que Dieu veut, eh bien, faites ces choses et vous vivrez. Et qu'est-ce qu'il est arrivé? L'homme, avec sa prétention de pouvoir accomplir la loi de Dieu, de pécheur qu'il était, qu'est-ce qu'il est devenu? Transgresseur. Il a transgressé la loi de Dieu. Et l'économie de la loi a été une faillite. L'homme a simplement manifesté par la loi à quel point il était irrémédiablement pécheur. Incapable de faire, d'accomplir la loi. Vous pouvez l'accomplir, la loi? Vous essayez de l'accomplir? Mais alors je comprends que vous soyez sous la malédiction. Vous êtes sous la malédiction parce que vous ne pouvez pas. Il est dit que nous ne le pouvons pas. La chair ne peut pas accomplir les désirs de Dieu. Alors, au temps convenable, quand il a été prouvé que l'homme était réellement perdu et sans force, le Christ est venu, revêtant un corps de chair semblable au nôtre, et lui a su résister à Satan qui a essayé de le détourner du chemin et qui lui a offert ce qu'il va offrir à l'homme qui va régner bientôt sur ce monde. Cet homme qui est peut-être déjà, qui existe déjà, mais qui n'a pas encore été manifesté, mais dans un court laps de temps, le monde entier attend le surhomme. Eh bien, il peut être manifesté. Et Satan n'attend que ce moment pour pouvoir lui offrir toute sa puissance afin d'essayer d'amener le monde entier dans une réussite fabuleuse. Vous y croyez? C'est ce que le monde espère. On attend ça du surhomme, et grâce au progrès scientifique, n'est-ce pas, des gens qui ont marché sur la Lune, ils peuvent faire marcher la Terre. On ne sait pas même marcher sur la Terre. Mais on se glorifie d'avoir marché sur la Lune. Alors, mes amis, le diable a donné sa puissance à cet homme. Et il arrivera justement à tout ce que le monde désire. Qu'est-ce qu'il désire? La paix et la sécurité. Mais pour quoi faire? Pour jouir, pour avoir toujours la nuit de ses plaisirs, hein, comme c'est appelé ici. C'est ce que le monde veut. Et il y aura ce faux prophète et qui sera là pour appuyer le chef politique, parce qu'il faut qu'il y ait un chef politique et un chef religieux, et en son effort, dans un grand accord, l'Écriture nous le montre, ils arriveront à la domination mondiale, à une religion mondiale, et on ne pourra plus acheter ni vendre si on n'a pas, quelle marque ? La marque de la bête. Et tout est en préparation pour vous faire accepter la bête. Même les émissions de radio ou de télévision, c'est toujours des bêtes qui parlent maintenant. Avant, il y avait de beaux visages encore d'enfants. Maintenant, c'est des bêtes, n'est-ce pas ? On nous habitue à voir des bêtes qui parlent, l'image de la bête. Oui. Et puis, avec toute cette technologie, eh bien, bientôt, il n'y aura plus d'argent, on aura une marque, et si avec cette marque sur la main ou sur le front, eh bien, nous pourrons avoir accès à la nourriture, aux vêtements et à tout cela, et on contrôlera tout cela. Et ceux qui ne voudront pas, eh bien, seront persécutés. Et nous allons donc au devant d'un monde effroyable. Oui, le matin vient, mais la nuit aussi. Parce que les hommes ont refusé la vraie lumière qui devait venir dans le monde. Et Jésus l'a dit à plus d'une reprise. On pourrait étudier justement ce que lui a dit au sujet de la lumière et pourquoi il est venu. Vous savez qu'après la création, Dieu s'est reposé le septième jour. Et quand Jésus, lui, est apparu et qu'il s'est mis à faire des miracles le septième jour, qui était quel jour ? Le jour du sabbat, on l'a accusé de travailler le jour du sabbat. Et alors, Jésus répond, « Mon Père travaille. » Depuis la chute, Dieu s'est remis au travail pour introduire le plan de la rédemption. Mon Père travaille et moi aussi je travaille. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Le travail divin du Père et du Fils pour racheter sa créature. Et on disait qu'il blasphémait parce qu'il appelait Dieu son Père. Et même, vous savez, pour convaincre ses disciples, ce n'était pas facile, après 3 ans de vie avec Jésus, quand Jésus leur parlait du Père, Philippe disait, « Mais montre-nous le Père, et cela nous suffit, Philippe. Je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu, a vu le Père, n'est-ce pas ? Il était l'image du Dieu invisible. On avait tellement dit, ah ben, si Dieu existe, qu'il se montre. Il s'est montré en Jésus-Christ. Et il a été rejeté. On n'a pas pu supporter son image. Mais on supportera l'image de la bête. Des foules qui ne veulent pas croire au Christ seront séduits par cette énergie d'erreur, par cette puissance de Satan qui vient sur le monde. Et nous sommes conscients de cette puissance satanique qui vient sur le monde. Eh bien, les gens qui n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés, ils croiront quoi ? Le mensonge. Et vous les voyez se livrer, n'est-ce pas, à l'occultisme, aux diseuses de bonne aventure, au spiritisme, tout cela, toutes ces puissances-là, eh bien, on y court, on y croit, à cette astrologie, à tout cela, mais à l'évangile, au Seigneur Jésus, c'est démodé. Eh bien, ce que vous voulez, vous êtes libre. Mais nous voulons en rester avec ce que nous dit la parole. Et nous n'avons pas peur d'être trompés. Nous attendons Jésus et l'accomplissement de ses promesses. Il a une heure. Et vous savez, le matin, c'est aussi peut-être l'heure de sa venue, en tout cas pour beaucoup, ce sera l'heure de sa venue. Même si, pour d'autres, ça sera midi, et pour d'autres, le soir, et pour d'autres, minuit. Comprenez-vous ? Ce sera quand même le matin, le grand matin de son retour, quelle que soit l'heure. Il vient bientôt, disait la maréchale Bouc, sera-ce le matin, midi ou minuit, peu importe, je sais qu'il vient bientôt. Et c'était de ces cœurs bien trempés et qui avaient une autorité pour prêcher l'évangile aux âmes. Eh bien, que Dieu nous donne de nous réjouir de ce que le matin vient. Celui qui m'a aidé dans le premier camp Mahanaïm, c'était le pasteur Champandal, que quelques-uns parmi vous ont connu et qui était en France un de ces pasteurs qui a été appelé un des brigadiers de la Drôme, un département de France. Lui qui avait fait sa théologie dans une école moderniste, et qui était devenu pasteur, et qui ne croyait en rien. Il ne croyait pas au sang de Christ, il ne croyait pas à l'inspiration des Écritures. Et il a dû passer par la conversion. Et vous savez, je me souviendrai toujours quand les jésuites de Montréal m'ont invité un jour, et puis ils m'ont dit, écoute, amène-nous le pasteur Champandal. Ils appelaient ça le père Champandal, sans aucune importance. N'est-ce pas? Eh bien, je l'ai amené, et je le vois toujours, il est un peu réticent, voilà, des jésuites, et puis, un groupe uniquement catholique, et puis, c'était le moment, n'est-ce pas, où toutes les sœurs se frisotaient, alors il disait, bonjour mademoiselle, c'est la sœur du Saint-Esprit, excusez-moi, bonjour mademoiselle, c'est la sœur de, puis c'était un autre ordre, n'est-ce pas, elles étaient mignonnes ces sœurs, mais toutes avec des colliers, les sœurs modernes, n'est-ce pas, quand on a laissé toutes ces habits religieux. Alors le pauvre monsieur Champandal, il avait cru que c'était des dames invitées, mais c'était des sœurs. Alors vous comprenez qu'il y a eu des mariages après ça, avec des prêtres. Et forcément, et bien oui, mais tout ça, nous l'avons vécu. Et je vous encore, monsieur Champandal, si vous savez au chapitre 12 justement de Jean. Et puis, il dit, voici l'heure est venue. Puis il raconte ce qu'il était, comment il a fait sa théologie. Il raconte devant tous ses hommes et ses femmes qu'il n'y croyait pas. Et puis qu'un jour, il était tellement désespéré. Il a entendu parler sur les hauteurs, dans la Drôme, il y avait un prédicateur qui annonçait l'évangile, et il y avait tout un réveil là. Puis il est allé, mais évidemment avec tout le mépris, M. Champandal, c'était un homme très bien, de la bourgeoisie genevoise. Et alors, il disait, qu'est-ce qu'il peut dire, cet homme? Puis quand même, il a été touché, et il a parlé à cet homme, il a raconté que lui n'y croyait pas. Et vous savez ce que cet homme a dit, et ce que Champandal a dit devant les jésuites de Montréal, là? Que cet homme lui a dit, si j'étais à votre place, monsieur le pasteur, j'irais planter les choux. Vous avez compris? Je cesserai d'être pasteur et j'irai planter des choux. Je ne sais pas si vous aimez les choux. Chouchou. Oui, oui. Et ça l'a transpercé. Et savez, c'est pour ça que vous devez avoir de l'amour pour ces gens qui sont peut-être très instruits et qui n'y croient pas. Lui n'y croyait pas. Le doyen Lamothe, qui était le fondateur de la première université évangélique là, à Aix-en-Provence, m'a raconté sa vie, j'étais son ami. Il m'a raconté la même chose, il ne croyait pas au sang de Christ. C'était une doctrine d'abattoir, une théorie bouchée, et tout ce que vous voulez, n'est-ce pas ? L'expiation par le sang, etc. Un père qui sacrifie son fils, quelle abomination de la désolation. Eh bien oui, eh bien, ces hommes-là, comment est-ce qu'ils ont été amenés à une autre vie ? Par la prière de quelques femmes, si je pense à la morte, quelques femmes dans la nouvelle église où ils devaient être, qui lui ont demandé, monsieur le pasteur, notre pasteur précédent nous faisait des études bibliques, est-ce que vous nous feriez des études bibliques ? Mais bien sûr, un jeune pasteur, il est tout prêt à faire des études bibliques. Mais quel sujet voudriez-vous ? Le sang précieux de Christ. Je me souviens encore cette nuit où la mort m'a raconté ça. C'était à Saint-Brévin-l'Océan, c'est tout très loin, au bord de l'océan Atlantique. Le sang précieux de Christ. Qu'est-ce que je vais dire sur le sang précieux de Christ ? Il n'y croyait pas. Alors il a attendu. Puis ces bonnes femmes, elles n'étaient pas si belles que ça. Elles ont bien compris qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Alors elles priaient pour lui. Puis elles ont dit, monsieur le pasteur, vous savez, peut-être que vous aimeriez mieux un autre sujet. Alors on a pensé, est-ce que vous pourriez nous parler du tabernacle ? C'est bien que ça veut dire, un tabernacle. Ça va, ouais. Qu'est-ce que je vais dire sur ces plantes avec lesquelles on a mis de l'or ? Eh bien, il a été amené à genoux à prendre cette décision dans son bureau. Seigneur, je ne peux plus rester ici. Ou bien, tu changes ma vie, ou bien. Et il a été transpercé. Et il est devenu un homme de Dieu, au lieu d'être un homme d'église. Comprenez-vous ? Est-ce que vous voulez être un homme d'église ou un homme de Dieu ? Ben, il faut passer par le brisement. Et je suis toujours reconnaissant d'avoir connu ces hommes qui ont été enseignés d'une façon mauvaise et qui ne croyaient plus après leur théologie. Et qui sont revenus. La mort avait écrit des livres. Il a brûlé ces livres, toute cette théologie-là. Il a eu cette humilité. Et nous nous réjouissons de penser que nous allons tous nous retrouver. Et Champandal, que vous avez. Lui, n'est-ce pas ? Et qui était un de ces brigadiers de la Drôme, il est devenu, avec une équipe d'autres pasteurs, ils sont allés dans les villes et les villages, aussi bien en France qu'en Suisse, et ils ont été des instruments de bénédiction de la part du Seigneur. Alors, nous aimons à nous souvenir de ces hommes, et nous les estimons très haut en amour. Et nous croyons qu'ils ne se sont pas trompés. Et c'était des hommes qui attendaient le Seigneur au cours de leur vie et qui ont annoncé le retour de Jésus et l'enlèvement aussi de l'Église et qui croyaient qu'il fallait que le Seigneur règne, car il est dit. Sans ça, vous devez biffer un tas de versets, malgré que vous dites que vous croyez à toute la parole. Il est dit qu'il faut qu'il règne. Or, ce n'est pas seulement un règne spirituel. Et ce qui est dramatique, c'est que pour plusieurs théologiens maintenant, eh bien, tout est symbolique. Les Juifs, tout ce qui était dit pour les Juifs, c'est pour l'Église. Il n'y a pas d'avenir pour les Juifs, pour le peuple d'Israël. C'est symbolique et on prend tout pour l'Église. Et on ne conçoit pas qu'il y a une vocation pour l'Église, qui est une vocation céleste, et qu'il y a une vocation pour un peuple terrestre. Et pourtant, c'est clair, sans ça, eh bien, on doit amputer la Bible. Et c'est pourquoi, après avoir été travaillé, moi aussi, par tous ces courants-là, après avoir étudié tout cela, eh bien, on arrive à ne plus rien savoir, et on ne peut plus prêcher. On ne peut plus prêcher. On ne sait pas ce qu'on doit dire. Alors, on fait de la morale. Maintenant, on fait de la morale. C'est toujours bon, la morale. Je ne peux pas vous dire, droguez-vous, droguez-vous. Je peux quand même vous dire, suivez les enseignements de Jésus. Jésus, quand même, c'est un grand homme. Mais non, mes amis, il faut que nous puissions être remplis de sa vision. Le Seigneur n'a pas encore régné. Jusqu'à maintenant, prophétiquement, tous les royaumes du monde, quels que soient les gouvernements, qui se sont succédés sur la terre, sont comparés, comme je l'ai dit souvent, à des bêtes. Et la dernière sera plus cruelle que toutes les autres. Jésus, il n'y a pas encore eu un règne humain. Et voici, je vis un être semblable à un fils d'homme qui venait. Et c'est à lui qu'a été donné le règne. Et toute la création est en travail et soupire après ce règne que voudraient amener peut-être les écologistes. Bien, je suis bien pour les écologistes dans un sens, mais ce n'est pas les écologistes qui amèneront ce règne. C'est le jugement du Seigneur Jésus. Il faut qu'il règne. Et toutes choses auront un accomplissement. On nous dit que, mais non, il n'y aura pas de règne. On est déjà dans le règne maintenant. Quand j'ai dit ça à un de mes amis, qui est maintenant près du Seigneur, et qui a annoncé les mêmes choses que nous, mais qui à un moment donné a flanché parce qu'il a un fils qui avait pris une autre direction, il m'a dit, moi, je ne sais plus que croire. J'ai dit, mais tu ne peux quand même pas me dire qu'on est dans le règne maintenant. Satan n'est pas dit. Il dit, oui, mais sa chaîne est longue. Ça me fait penser à un chien, n'est-ce pas? La chaîne de Satan est longue. Alors, oui, il peut vous mordre, n'est-ce pas? Non, Satan n'est pas dit. Il court encore, ça et là, sur la terre, et il se promène. Il n'est pas lié. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent. Ça, c'est vrai. Mais il est à l'œuvre parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Et il va bientôt se servir de ces deux instruments que nous voyons dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, qui n'est pas symbolique, mais où nous voyons toute cette préparation. Il va se servir de ces deux hommes pour essayer de devancer le Christ et d'amener son règne. Il aura peut-être un certain succès, paix, paix et sûreté, quand une ruine subite viendra sur eux. Alors, voilà, mes amis, quelques lignes. Connaissez-vous des textes annonçant le matin? Bien, il y en a un que j'aimerais vous citer, parce que vous en avez cité plusieurs et c'est magnifique. Mais on pourrait parler des matins d'Abraham, on pourrait parler des matins de Job, des matins de Moïse, des matins des psaumes, des matins d'Ésaïe, des matins de Jérémie. Et je voudrais vous parler d'un certain matin dont nous parle le doux psalmiste d'Israël. C'est au chapitre 23 du deuxième livre de Samuel. Chapitre 23 du deuxième livre de Samuel. Voici les dernières paroles de David. Paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé, de loin de Dieu, de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Ses rayons après la pluie font sortir de la terre la verdure. Que c'est beau, ces expressions. Nous attendons un matin sans nuage. Nous attendons le Seigneur. Je n'irai pas plus loin là-dessus, sur ce que symbolise le matin dans les pages inspirées, vous l'avez dit, le jour de la résurrection, le retour de Jésus. Je vous laisse méditer vous-même, mais ce que nous savons en tout cas, c'est que ces compassions se renouvellent chaque matin. Dans les Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 23, et par Ésaïe 21, verset 12, nous savons que le matin vient et que nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Alors, dans la dernière question, pour avoir quand même un peu couvert avec vous ce que nous avons dit, c'est uniquement pour que vous soyez convaincus que l'objet de la prophétie, c'est qui ? C'est Jésus. On n'étudie pas la prophétie pour connaître l'avenir et des grands événements. Même quand j'étudie l'Apocalypse, je ne cherche pas à impressionner les gens en élaborant sur tout ce qui est dit. Ce que nous cherchons dans l'Apocalypse, c'est quoi ? Jésus. C'est la révélation de qui ? De Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné. Donc, chaque chapitre de l'Apocalypse, c'est un portrait de Jésus que nous considérons. Et alors, ça change toute notre méditation de ce livre de l'Apocalypse. Mais quand vous prenez dans l'évangile de Matthieu, comme vous l'avez vu, voilà notre Joseph, qui n'est pas plus fou que nous autres, qui voit sa fiancée revenir dans un état qu'on ne peut pas cacher. Au commencement, évidemment, on peut le cacher. Mais quand la semence de Dieu est en nous, le corps prend aussi une forme. Et voilà qu'il voit que sa fiancée est enceinte. Alors il est très troublé, c'est un homme juste, et évidemment, il veut essayer de répudier Marie. Parce que lui ne connaît pas l'histoire de la visitation. Alors qu'est-ce qui lui arrive ? Verset 20, comme il y pensait, donc à la répudier secrètement, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Il n'est pas dit ce que le prophète avait annoncé, mais ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. C'est comme cela qu'on est oracle de Dieu. Il ne parlait pas de son propre fond, mais il parlait comme oracle de Dieu. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et vous avez trouvé le texte dans Ésaïe chapitre 7. Et j'ai vu que certains étaient émerveillés de voir cela.
Mais c'est ce qui arrive quand on se met à lire la Bible d'une façon entière et complète. Donc, la naissance de Jésus était annoncée par Ésaïe. Mais évidemment, et ça me navre de penser que même parmi les catholiques qui semblaient y croire, beaucoup de prêtres nient la naissance miraculeuse. On a une explication. Hein? Mais on ne croit pas que à cela, et pourtant on reste dans une église dont on devrait être excommunié. Mon père disait toujours, heureusement qu'il y a encore l'église catholique pour maintenir les vérités essentielles du christianisme. Par exemple, la divinité de Jésus-Christ. Il n'y avait pas touché. Mais maintenant, toute cette théologie entre aussi là. Donc, il y a une préparation à une religion universelle, mais qui ne sera pas du tout dans l'adoration du Christ. Un prophète comme les autres. Et Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Voilà. Quand on connaît un peu la prophétie, qu'est-ce qu'on fait? On obéit. La foi est une obéissance. La foi est une obéissance. Quand on a compris cela, on a fait un progrès. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Et le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. C'est justement un Iduméen, lui. Ce roi Hérode, c'est un Édomite. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avait cru. Voilà, où est le roi des Juifs. Et cette histoire de l'étoile, je vous la signale quand même pour que vous puissiez lire le texte de ce fameux Balaam qui n'a pas pu dire autre chose que ce que Dieu voulait. Verset 17 du chapitre 24, ou déjà le verset 16, « Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Très-Haut, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il perce les flancs de Moab, il abat tous les enfants de Seth, il se rend maître d'Édom, il se rend maître de Séir, vous connaissez maintenant ça, ses ennemis, Israël manifeste sa force, celui qui sort de Jacob règne en souverain, il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Eh bien, voilà, ils savent maintenant par cette prophétie, et ils ont vu cette étoile, et maintenant ils savent que c'est dans le pays d'Israël. Alors ils vont là. Mais dans le pays d'Israël, ils ne savent pas où. Alors ils arrivent à Jérusalem, la capitale, et ils demandent où ils peuvent rencontrer le roi des Juifs dont ils ont vu l'étoile. Et verset 3, le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé, etc. Il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Et qu'est-ce qu'il consulte? Les Écritures. Et ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qu'a écrit qui? Le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre des villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Donc dans sa première venue, Jésus n'a pas pu être Israël parce qu'on a refusé le bon berger. Alors, un jour, il devra être Israël qui sera manifesté comme étant son peuple. Croyez-le bien. Alors Hérode fit appeler secrètement les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait, puis il envoya à Bethléem. Il les envoya à Bethléem et dit, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi pour l'adorer. Vous pensez ça? Mais voilà que Dieu veille dans sa grâce. Alors les bergers suivent l'étoile, ils sont dans la joie et ils apportent leur présent au divin enfant. Mais ils repartent par un autre chemin parce qu'ils sont avertis divinement par le Seigneur. Et maintenant, une autre prophétie. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et il se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et ça, c'était quel prophète? Osée. Donc, vous voyez, on part d'Ésaïe, on part dans Michée, on arrive dans Osée, donc tous les prophètes parlent de lui. Et c'est ce que Jésus a expliqué aux disciples qui marchaient vers Emmaüs. Il leur expliqua dans toutes les Écritures, dans la loi, les psaumes et les prophètes, les choses qui le concernaient. Il leur a ouvert les Écritures. Puis, vous continuez, quand Hérode s'est rendu compte que les mages ne venaient pas faire leur rapport, il se mit dans une grande colère et ce roi sanguinaire envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Rachel pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Et voici, c'est le texte de Jérémie 31, verset 15, qui est cité et on arrive encore à une autre prophétie dont notre frère Malcolm a parlé, où il est question que dans leur retour, au lieu d'aller à Bethléem, donc ils sont allés, au lieu d'aller en Judée, ils sont allés en Galilée. Et Joseph est conduit à aller en Galilée pour demeurer dans une ville appelée Nazareth, une petite ville, une petite bourgade méprisée. Et vous savez, ce qu'on pouvait dire, que peut-il sortir de bon de Nazareth? On l'a dit au Seigneur, quand il s'est présenté comme étant le Messie, eh bien Nathanaël dit, que peut-il venir de bon de Nazareth? Lisez le chapitre. Premier, c'était une ville méprisée. Afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. En tout cas, hors de toute discussion, on l'a appelé Nazaréen. que ce soit l'explication de son ministère des Nombres, chapitre 6, je ne vais pas m'étendre là-dessus, ou que ce soit de ce texte d'Ésaïe, de Netzer, qui veut dire un rejeton, Ésaïe chapitre 1er, puis un rameau, un rejeton sortira du tronc d'Ésaïe, un rejeton naîtra de ses racines, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est donc un nom de mépris. Ça, c'est ici que Jésus a été méprisé. Homme de douleur, sachant ce que c'est que la langueur, comme quelqu'un de qui on détourne le visage. Celui dont on disait, il n'a pas été à nos écoles, il n'a pas fait nos études. J'entends encore un pasteur, justement, moderniste, qui dans le premier, moi j'avais 20 ans et j'avais le premier contact avec lui, il avait dit à celle qui devait devenir la mère de mes enfants, quand on était fiancés, qu'elle faisait un grand mal parce qu'elle épousait un homme qui péchait. Elle lui a demandé pourquoi je péchais. Parce au pasteur, parce qu'il croit à toute la Bible. Alors je suis allé le trouver parce que je paraissais pécheur dans le sens. Et je lui ai demandé ses lumières. Alors vraiment, comment pouvez-vous croire à cela et à cela? J'ai dit, mais à Noël, qu'est-ce que vous lisez? Vous lisez le récit de la naissance? Je dis oui. Mais je le dis rapidement. Je dis, parce que vous n'y croyez pas.
Mais non, mais Jésus n'est pas le fils de Dieu. Il est fils de Dieu, oui, comme vous et moi. Mais il est fils de Joseph. Ou alors d'un soldat romain.
Non, mais on a tout dit sur sa naissance. Moi, j'étais là devant cet homme et je me disais, mais comment lui dire? Il avait les cheveux blancs. Alors, je voyais ce vieillard qui niait. Je dis, mais dis-lui pourquoi, sur quoi vous appuyez-vous pour croire cela? Je dis, mais si je ne crois pas les écrits de Moïse, je ne croirai pas les paroles de Jésus. C'est Jésus qui a dit lui-même. Si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi. Oui, Jésus participait aux erreurs de son temps. Alors, vous voyez, tout ce que vous découvrez tout à coup dans cette forme d'incrédulité concernant tout l'Ancien Testament. Puis il me dit, et quant aux prophètes, sur quoi vous appuyez-vous? Bien, il ne vous sera pas donné d'autre signe que le signe de Jonas. Jonas, c'est la baleine. Il n'est jamais parlé d'une baleine. Il est parlé du grand poisson. D'un grand poisson. Bien, vous voyez, ça ne crochait pas. Mais quand même, vous ne voulez pas me dire que Jésus avait mes connaissances d'histoire naturelle. Moi qui ai étudié l'histoire naturelle. Le Créateur n'a pas la connaissance de l'histoire naturelle. Comprenez-vous? Ça me faisait mal. Mais quand même, cet entretien n'a pas fini en queue de poisson. Il a eu une suite. Avant que je parte, il m'a dit, vous êtes un bienheureux de ne pas avoir fait mes études. Il m'enviait. Puis après, il a voulu qu'on se retrouve dans une autre ville. On est devenus de bons amis. Mais on peut changer. Il était victime d'un enseignement qui faisait de lui, j'ai dû le lui dire, un hypocrite. Parce que si vous lisez une parole que vous ne croyez pas, quelle autorité pouvez-vous avoir sur les âmes? Mais il faut s'aimer au travers de tout cela. Essayer de comprendre et de voir qu'il y a eu peut-être aussi beaucoup de victimes, et ne rejeter aucune âme. Dieu notre Père, nous voulons te bénir parce que tu nous as plongés dans ta parole. Et nous voulons te demander simplement que nous puissions retenir les vérités essentielles et que nous puissions nous habituer un petit peu à découvrir ce grand plan que tu as pour nous, progressivement. Et qu'ainsi, sans être découragés par tout ce que nous ne comprenons pas, nous soyons de ceux qui marchent dans la lumière de Jésus. Tu as dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et nous voulons nous souvenir de ce texte du livre des Proverbes qui nous dit que celui qui marche dans la lumière voit la lumière augmenter chaque jour jusqu'au plein midi, tandis que celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas contre quoi il va trébucher. Merci de ce que tu veux nous donner de la lumière aujourd'hui, que nous en aurons encore davantage ce soir, et que si nous arrivons à demain, il y aura plus de lumière si nous savons mettre ta parole en pratique. Nous te demandons de nous bénir dans cette soirée pour ta seule gloire et notre bonheur à tous. Amen. Alors, mes amis, maintenant, notre...